Alien et les garçons, épisode 27. Bienvenue dans toi, mon meilleur.
Bonjour et bienvenue dans Alien et les garçons, épisode 27. Bonjour Vic.
Bonjour Thomas.
Bonjour Florian.
Bonjour Thomas.
Comment est-ce que vous allez, les copains?
Bah, on va très bien. Et surtout, il y a Vic qui est complètement allongé. J'ai l'impression qu'il veut qu'on la dessine comme une de ces françaises.
Exactement. Nouvel épisode, nouvelle position pour Vic. Et il est complètement allongé sur un canapé. C'est le premier épisode où on enregistre sans pied de micro. On tient les micros à la main, tel le Philippe Risoli.
On a dû en fait adopter cette posture parce qu'on n'a pas vraiment eu le choix.
On va y revenir. Alors, on est content de se retrouver après cet épisode 26 qui était culte quand même.
Non, moi j'ai l'impression d'avoir tout oublié.
Ah, c'est fou. Ouais.
Je me rappelle de rien de cet épisode-là. Ça devait être blackout total.
Arrêtez de mentir aux auditeurs. Qu'est-ce qu'on fait là?
Ok, d'accord.
Vas-y, Florian explique.
Attends, c'est difficile d'expliquer un paradoxe temporel, mais Florian, en tant qu'ancien explicateur, qu'ancien explicateur d'Alien et les garçons,
il a posé son verre de vin tellement il est pas bien là. Donc,
accrochez-vous, parce que ça va pas être facile à suivre, Florian.
Alors, on enregistre l'épisode 27 avant d'enregistrer l'épisode 26. Pourquoi?
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Si, ça a énormément de sens. Parce que, en fait, nous voudrions enregistrer l'épisode 26 à la fin des Utopiales. Nous nous trouvons actuellement à Nantes, avant les Utopiales. Donc c'est pour ça qu'on enregistre l'épisode 27.
D'abord, parce que le 26, en fait, on va parler des Utopiales.
Exactement.
Ah, et enfin, il y a quand même un gros souci dans une explication.
Parce que vous pourriez nous dire, mais à ce moment-là, on n'a qu'à enregistrer l'épisode 27 dans 3 semaines, comme d'habitude, ouais, etc. Mais non, parce qu'en fait, dans 3 semaines, je ne serai pas en France. Je serai...
Mort.
Non, pas du tout. Enfin, j'espère. On sait pas. Mais non, je serai au Japon. Je serai
oui,
au Japon pour mon
fameux voyage. Entre tradition et modernité.
Au pays de Pikachu, au pays de... Voilà.
De Mario et au pays de suicide de masse.
Et au pays du hentai.
Et du hentai.
Exactement.
Aussi.
Ouais.
Formidable. Donc du coup, on enregistre l'épisode 27 avant le 26. Du coup, on peut pas trop savoir ce qui s'est passé sur l'épisode précédent.
Non,
et voilà, donc bon, c'est pas grave.
On est un petit peu dans le futur.
Ouais. Mais dans le passé du futur.
Ouais, on est dans... Non, enfin, on est dans le futur sans connaître... Bah ouais, non, c'est ça, on est dans le futur. On connaît pas ce qui s'est passé jusqu'à là.
Est-ce qu'on se parlerait pas de cet épisode plutôt que raconter nos vies?
Tout alors, à fait.
Épisode... Thématique vibration.
Ouais, exactement. Ouais. Et cette thématique nous a été donnée par un auditeur.
Par article 2442. On dirait c'est un avocat qui parle mal. Ouais, article 2442, je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur le juge.
Mais surtout, il a mis son digicode directement dans son pseudo ou ce genre de choses.
Je ne sais pas.
2442, ça peut
c'est
être
un code Wi-Fi.
En tout cas, on l'embrasse. Article, si jamais tu veux bien nous expliquer d'où vient ton pseudo. Souvent, on se demande d'où viennent les pseudos des gens et jamais ils nous disent. Donc, on ne sait pas.
Je
donc,
demandé,
article,
moi,
si tu veux, tu n'hésites pas. Tu nous envoies un message.
De comment?
Tu t'es déjà demandé, toi, d'où venaient les pseudos des gens?
Mais si, on l'a déjà fait plus, il y a plusieurs épisodes. Mais clairement,
il y avait je me souviens d'Oxynora.
Oxynora, évidemment. Ouais,
mais c'était peut-être un prénom. Alors, arrêtez tout de suite, c'est hyper offensant.
Je sais pas si ça devient offensant.
Nos auditeurs ukrainiens. Ok, c'est super. Donc, on va se parler de vibrations dans nos chroniques. De quoi parlent vos chroniques plus spécifiquement, Vic?
Mon chronique est une chronique.
J'ai dit non. C'est pas grave, continue.
Ouais, c'est ma position qui me. Oui. Ça, je sais pas. Ma chronique est une chronique en 5 temps qui sera basée de manière tout à fait classique sur le schéma narratif classique.
En 5 temps. Très bien. Tu veux pas nous dire quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire.
Du coup, t'as un inkipi, un dénouement, un trigger.
Voilà, exactement. C'est une histoire.
Florian, de quoi tu parles? De quoi parle ton chronique du coup?
Mon chronique parle d'une espèce qui est capable de voir dans le passé, de savoir tout ce qui se passe au moment présent et de voir dans le futur.
C'est un peu des chroniqueurs d'Alien et les garçons.
Tout à fait.
Formidable.
Oui. Et toi, Thomas?
Et moi, ma chronique, ça parlera du premier pas...
Ton chronique.
Mon chronique, pardon, j'ai des problèmes d'élocution de français. Mon chronique parlera du premier pas de l'homme sur Mars. Eh oui.
On l'a déjà vécu ici, mais j'ai hâte de découvrir cette nouvelle version.
T'as eu la mal à la gorge.
Un petit peu,
ouais. Ok. Ouais,
je m'entraîne pour ma chronique.
Eh ben, c'est super. Et vous savez ce qu'on fait à la fin de la chronique ou pas?
On se met tout nu.
Pourquoi on se met tout nu? Pour le quiz de Florian.
Pour le quiz. Et on se met tout nu pour le quiz.
Je sais pas, c'est Vicani, je sais
moi,
pas.
Moi, ça me va.
Très bien. Voilà, on a un peu fait le tour. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour sa défense?
Oui, moi, j'ai quelque chose à dire avant la chronique.
Vic, au tableau.
Voilà, je vais au tableau et j'ai une objection, c'est-à-dire que je voulais quand même passer un petit mot à article
2442
du
Code civil.
Voilà, qui est, qui est donc, on vous le rappelle, l'auditeur qui nous a laissé un message, parce qu'il nous a aussi, en plus de nous laisser le thème, oui, pas le message, mais le thème, il nous a aussi laissé un petit mot très sympa sur
iTunes. Un commentaire 5 étoiles, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Il a tout compris.
Il a tout compris.
5 étoiles. Waouh.
Ouais. Et c'était un commentaire
très
sympathique.
Très long. Ah oui, alors il a tout fait dedans.
Oui.
Dans le sens qu'au début, il nous dit, j'étais un peu sceptique au début que j'écoutais. Je fais, ok. C'est après, il fait, mais finalement, c'est vraiment super. Continuez, vraiment. Ça donne envie d'écrire, machin.
Moi, j'ai beaucoup aimé le début, là, j'étais un peu sceptique. Ouais. J'ai trouvé ça très cool que quelqu'un soit un peu sceptique.
Enfin, quelqu'un est honnête avec nous. Évidemment qu'on est très moyen. Ouais. Non, mais merci beaucoup, article 2442 du Code civil. Et d'ailleurs, c'est un peu total comme commentaire, parce qu'il nous fait aussi des recommandations. Il nous demande d'écouter des podcasts. Il nous propose de remplacer le portrait chinois des Glingo par une sorte de devinette. Enfin,
il a fait son propre épisode en un commentaire.
Exactement, mais on va peut-être le prendre comme consultant pour voilà.
Écoute, on va même le prendre comme chroniqueur si jamais.
Allez, on recrute. Si quatrième jamais, chroniqueur, voilà. Article 42.
Chroniqueur.
N'hésitez pas à nous envoyer vos chroniques par voie postale, on vous le rappelle.
Ah oui,
par
absolument.
Par voie postale même, si possible. Une chronique qui tienne en même pas 30 mots.
Peut-être que, je ne sais pas, mais peut-être que dans l'épisode 26.
Tu veux dire
l'épisode du futur du passé, nous avons parlé d'une certaine carte postale que je ne vais pas évoquer maintenant. On verra bien.
Oui, gardons le suspense.
Gardons le suspense.
Absolument.
Gardons le suspense pour l'épisode qui est sorti il y a 3 semaines.
Non. Mais qu'on enregistrera après-demain, donc ça passe.
C'est ça.
Non, voilà. En tout cas, c'était ma seule objection. C'était de
et
faire un petit
vous avez bien fait, Maître Vic.
Article 22-24.
Est-ce que, si tout le monde est d'accord, l'audience est levée?
L'audience est levée.
Et on passe directement.
Première chronique.
Au premier coupable, on va accuser Florian.
Merci pour le poison.
Le bruit d'une cigarette qui se consume. Une musique jazz intimiste. Le tapotement des doigts sur un clavier. Ce soir, Joseph travaille tard. Comme tous les soirs depuis le lancement de LIGO et de Virgo, les deux observatoires terrestres d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser. Son travail consiste à lire et analyser les millions de lignes de données récoltées par les capteurs laser de plus de 4 km de long, afin de détecter les infimes fluctuations dans le tissu gravitationnel de l'univers. Rien que ça. Son but ? Prouver qu'Einstein avait raison lorsqu'il prédisait que les trous noirs étaient si massifs qu'ils pouvaient modifier la géométrie de l'espace-temps sur plusieurs milliards d'années-lumière, et que ce serait certainement la seule manière de les détecter de manière directe. Tout ça pour un salaire avoisinant les 3 200 $ par mois. Mais Joseph n'a jamais eu l'occasion d'observer le moindre petit sursaut de données sur son moniteur. La seule chose qui accroît dans son bureau, c'est le tas de mégots dans son cendrier. Cendrier qui est ensuite vidé tous les matins, à 7h37 tapante, par la femme de ménage. Sauf une fois, où elle en a eu marre de nettoyer les bureaux, toujours dégueulasses, des analystes du laboratoire C, et qu'elle a posé un post-it jaune fluo sur le frigo qui dit « Je ne nettoierai plus jamais les cendriers ». Ce fut certainement l'aventure la plus trépidante de ses 20 dernières années de carrière. Le lendemain, les cendriers ont été vidés à 7h37 tapante. Mais revenons à Joseph. Le 14 septembre 2015, à 23h32, Joseph fume donc des cigarettes, les pieds posés sur son bureau et les yeux rivés sur son écran. Il regarde de manière distraite les lignes de données qui s'affichent seconde après seconde. Il ne sait pas vraiment ce qu'il cherche, ni où le chercher. Personne ne le sait d'ailleurs. Mais il cherche, il scrute, la moindre anomalie, le moindre chiffre qui dépasserait, même de quelques centièmes, les moyennes de référence. Lorsque tout à coup, un miracle apparaît. 42. Le nombre 42 apparaît dans cette suite de chiffres inutiles comme une véritable apparition divine. Abasourdi, Joseph s'y reprend à deux fois. Il se frotte les yeux, écrase sa cigarette et entame une relecture rapide mais précise des dernières lignes de chiffres. Il s'élance sur sa chaise à roulettes, à l'autre bout de la pièce, et jette un œil sur le second moniteur d'observation. Entre-temps, d'autres données sont arrivées et ont été traitées par le logiciel d'interprétation graphique. Sur la courbe, habituellement plate, un pic, que dis-je, un roc, lui-même suivi par une suite de pics et de rocs qui forment ensemble une véritable petite chaîne de montagnes. C'est officiel. Joseph vient d'observer la fusion de 2 trous noirs, situés à plus d'1 milliard d'années-lumière. Et par la même occasion, de confirmer la théorie de la relativité générale d'Einstein. C'est la consécration du génie scientifique et technologique de l'espèce humaine. Il aura fallu pas moins d'une centaine d'années, de milliers de chercheurs et de plusieurs milliards de dollars pour repousser encore et toujours les frontières de la connaissance. Cette découverte ouvre le champ des possibles à l'observation des événements cosmiques fondateurs de notre univers, comme le Big Bang. Théoriquement, il devient même possible de détecter les prémices d'une onde gravitationnelle et donc de prédire la transformation d'une étoile à neutrons en trou noir ou même la fusion de deux galaxies. Lire le passé le plus lointain et prédire le futur. Les deux plus grands rêves de l'humanité à portée de main. Mais il existe sur Terre une espèce animale capable des mêmes prouesses avec pourtant un cerveau bien moins grand et une capacité d'endettement proche de zéro. Cet animal, c'est le cafard.
Le cafard est un petit animal appartenant à l'ordre des Blatoptères. Aussi appelé cancrelat en Europe ou ravet aux Antilles, le cafard est souvent considéré comme un nuisible. Sa taille varie de quelques millimètres à près de 10 cm. Leur corps possède une forme ovale, aplatie dorso-ventralement, sur laquelle résident deux paires d'ailes qui permettent de s'envoler rapidement. Sa tête ovoïde est composée de pièces buccales de type broyeur et de grands yeux à facettes. Deux armes redoutables pour la survie de cette espèce. Tout au bout de leur corps, on retrouve de longues et fines antennes formées d'un grand nombre d'articles. Ces antennes ont pour but de capter les différentes odeurs environnantes, comme celle de la nourriture fraîche ou d'un ennemi mortel. En de rares occasions, ces appendices lui permettent aussi de capter la télé hertzienne ou encore les ondes gravitationnelles.
C'était sous nos yeux depuis le début. Les antennes des cafards sont composées de filaments qui les parcourent de bout en bout et qui sont sensibles aux particules et aux différentes vibrations. Grâce à cela, ils peuvent ressentir tous les changements atmosphériques, y compris les fluctuations cosmiques. Dans leur forme de repos, elles s'ouvrent exactement à 38 degrés, ce qui se trouve être la même amplitude d'ouverture qu'est le deux bras laser de LIGO et de Virgo. Cela aurait pu mettre la puce à l'oreille à bien des chercheurs si seulement les différents domaines scientifiques communiquaient entre eux. Contrairement aux deux observatoires d'ondes gravitationnelles, les cafards possèdent la faculté de bouger leurs antennes comme bon leur semble, et donc, par extension, de capter une plus grande variété de signaux, en trouvant la bonne inclinaison et la bonne combinaison entre antenne droite et antenne gauche. Rajoutez à cela le moyen de communication le plus rapide de la planète et une intelligence collective partagée par des milliards d'individus, et vous avez le détecteur de vibrations le plus sensible de l'univers. Un outil capable de ressentir les événements passés, présents et futurs, qu'il se trouve à 1 km ou plusieurs milliards d'années-lumière. Ce mécanisme de défense ultime leur a permis de traverser les âges en n'étant nullement inquiétés par les différentes catastrophes. Le 11 septembre 2001, 5 terroristes détournent le vol numéro 11 d'American Airlines pour le faire s'écraser à 8h46 sur la tour WTC-1 du World Trade Center. Quelques minutes plus tard, le même procédé est utilisé sur le vol UA-175 pour frapper la seconde tour jumelle. Ces attentats provoquent la mort d'environ 3000 personnes. Des businessmen, des pompiers, des passagers, des hommes, des femmes. Mais aucun cafard. Aucun cafard n'est présent dans les deux tours quand elles s'écroulent. Car plusieurs jours précédant la catastrophe, une alerte est lancée par un jeune cancrelat de Boston. Cette info est ensuite diffusée de cafard en cafard jusqu'à arriver aux antennes des Blattes de Manhattan. Elles ont ensuite pris leur clic et leur claque direction le New Jersey pour profiter des plages et du soleil en attendant que l'agitation retombe. En fouillant bien dans les archives nationales et les livres d'histoire, vous pouvez trououver plein d'exemples du même genre. Hiroshima, 6 août 1945. Le gouvernement américain souhaite mettre fin à la Seconde Guerre mondiale en faisant plier le Japon et pourquoi pas, par la même occasion, tester ces deux petites bombes nucléaires fraîchement sorties des usines d'armement. La nouvelle parvient rapidement aux rares cafards encore présents dans la région. S'ils n'ont pas été découragés par les multiples bombardements subis par l'archipel pendant la guerre, ils allaient bien devoir se protéger d'une bombe nucléaire de plusieurs mégatonnes. En l'espace de quelques heures, la quasi-totalité des blattes présentes à Hiroshima se terrent dans les sous-sols de la ville. Pendant la catastrophe, elles doivent s'adapter et développer une résistance aux boules de poison anti-nuisibles, seule nourriture disponible en quantité suffisante. Une fois le nuage radioactif retombé, elles n'ont qu'à ressortir peinards de leur terrier et à profiter de la tranquillité post-atomique d'une Hiroshima sans être humain. Un astéroïde exterminateur de dinosaures, une broutille pour ses survivants. Il leur suffit de déployer leurs petites ailes pour voler jusqu'à un continent plus propice à leur survie. La centrale nucléaire de Tchernobyl, les incendies en Californie, l'ouragan de Tahiti ou le dernier album de Michel Sardou, toutes ces catastrophes ont pu être facilement évitées par cet animal hors du commun, capable de voir dans le futur grâce à ses antennes. Il ne fait alors plus aucun doute que les cafards survivront à l'espèce humaine. Pourtant, un phénomène très étrange inquiète l'Observatoire européen des blattes et autres nuisibles. Après une croissance ininterrompue de leur population depuis 355 millions d'années, les cafards seraient en voie de disparition. Entre 1990 et 2019, leur nombre aurait même diminué de 42%. Différentes études tentent, en vain, d'expliquer ce changement soudain. Mais si l'espèce humaine se préoccupe tant de la survie de son animal nuisible numéro 1, elle ne saisit pas l'importance capitale de cette disparition. Car ce qu'ils ne savent pas, c'est que le cafard ne meurt pas, il s'enfuit. Depuis plusieurs années, les cancrelats des quatre coins du globe détectent dans les vibrations cosmiques la signature d'une éruption solaire dévastatrice. Une vague nucléaire d'une telle ampleur qu'aucune blatte ne veut prendre le risque de rester dans le coin quand l'événement frappera notre planète. Après concertation des dirigeants cancrelats du monde entier, les cafards prennent alors la décision de quitter la planète Terre par leurs propres moyens. C'est ainsi que jour après jour, des milliers de blattes décident de déployer leurs ailes et de se diriger vers le vide intersidéral pour démarrer une nouvelle vie. Sans oublier bien sûr d'emporter quelques boules de poison antinuisible en cas de disette.
Waouh, on finit en musique, on se rapproche de plus en plus de l'épisode comédie musicale, on est vraiment content.
Ce sera peut-être l'occasion d'un épisode spécial, on sait pas.
Ah mais on est très 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 chaud, enfin moi je suis bouillant, c'est peut-être parce que j'ai bu 3 verres de vin avant mais...
Alors la raison pour laquelle j'ai mis merci pour le poisson pour la fin de cette chronique, c'est que vous ne le savez pas, vous deux chroniqueurs en face de moi, mais la chronique s'appellera merci pour le poison.
Ah, excellent, jeu de mots.
Jeu de mots.
Est-ce que t'as écrit cette chronique quand t'étais en voiture ou pas?
Non,
parce que c'est le genre de jeu de mots que tu fais quand t'es en voiture. Faut savoir que Florian, sa kryptonite de l'humour, c'est les voitures. En voiture, il fait des blagues pas possibles.
C'est vrai, j'ai fait des blagues très drôles pendant le trajet en voiture, c'est juste qu'il y avait bien plus de déchets que d'habitude.
Mais c'est juste merci pour le poisson, t'as aussi les dauphins qui se cassent de la terre à ce moment-là.
Exactement, c'est ma principale inspiration pour cette chronique.
Douglas Adams.
Ouais.
Exactement, H2G2,
le guide du voyageur galactique.
Intergalactique.
Par où commencer le post-débat de ton chronique?
Moi, je peux commencer par papa.
Ouais. Tu peux commencer par papa.
Par papa. Mon père s'appelle Joseph.
Oui, c'est vrai.
On l'embrasse.
Exactement. Bonjour papa. Bonjour papa Joseph.
Moi, j'ai une première question. C'est j'ai pas tout compris. Genre je dirais plus, je suis proche de avoir plus rien compris que tout.
Le mec il a allongé sur son canapé, il avait même pas le casque, il était en train de bouffer des chips goût mayo, je sais pas quoi.
Ma première question est donc,
en gros,
j'aimerais bien qu'on arrête de se moquer de ma position parce que je vous rappelle qu'on est donc du coup plus dans le château, on est à Nantes. Du coup, il y a un canapé. Il y a un canapé dans le château. C'est pour ça que je suis méchant. Ma première question est, Florian, Thomas, t'arrêtes d'être méchant avec moi. Pardon. Et avec nous.
T'es méchant, Thomas.
Non, c'est. Est-ce que tu peux nous la résumer?
En gros, est-ce que vous voyez quelle gueule ça a le détecteur d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo? Ce sont deux détecteurs, deux laboratoires.
Aucunement.
De nom, je connais, mais la gueule.
En gros, c'est deux laboratoires qui situent à deux endroits opposés dans le monde, un aux États-Unis et un autre en Italie. Et en fait, ça consiste en un point, un laboratoire, et deux antennes qui partent de part et d'autre de ce laboratoire. Et en fait, dans ces antennes,
il y a une petite corée,
mais je comprends déjà pas le début.
Mais en gros, ça ressemble exactement à une tête de cafard vue du dessus.
Okay,
d'accord. C'est un rond avec une antenne qui part à gauche, une antenne qui part à droite.
Ok.
À 38 degrés d'ouverture.
38 degrés.
Et ces antennes, elles font 4 kilomètres. Elles font 4 kilomètres de longueur, ces antennes.
Waouh.
Et j'aimais bien l'idée, en fait, qu'on ait développé ce genre de laboratoire avec à coût de milliards d'euros d'investissement, plusieurs dizaines, voire centaines d'années et de chercheurs pour mettre au point ce laboratoire, alors qu'au final, il y avait une espèce sur Terre qui était exactement pareille en termes anatomiques. C'était le cafard.
C'était une éloge du cafard, finalement.
Du coup, je vois le résumé, je comprends le lien.
À tel point que c'est même les cafards qui vont conquérir l'univers, finalement. Bah,
en tout cas, ils vont pas mourir.
Non. En tout cas, ils vont pas mourir. À la base, je m'étais même demandé, j'avais une fin alternative que vous trouverez sur la phase B du DVD.
Oui, parce qu'on sort un DVD aussi. On sort
plein de choses. Et qu'on pourra tourner pour faire une phase B. Bon, c'est tout nouveau, c'est autre chose. j'avais une fin alternative où les cafards, en fait, se préparaient à la catastrophe qui venait et allaient donc laisser les humains mourir complètement et ensuite conquérir le monde et mettre leur propre gouvernement en place, enfin, vivre leur vie de cafard tranquillement, pépouse et évoluer
classique,
sur la planète.
Cafard classique, conseil du cafard. Exactement. Démocratie de cafard.
Et au final, après, je me suis dit, ça peut être intéressant de faire un parallèle, sachant que je faisais déjà un parallèle à H2G2 avec le nombre 42 qui revient plusieurs fois dans la chronique, faire un parallèle avec les dauphins qui se barrent de la planète en bougeant leur queue jusque dans le vide intersidéral et du coup avec nos cafards qui pourraient s'en aller et vivre leur vie de cafard, leur plus belle vie de cafard ailleurs, quoi.
Ok.
Ouais, c'était très intéressant. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça change. C'est par rapport à ma chronique de la, pas la dernière, mais du coup, l'épisode encore d'avant, l'épisode 24, qui était très anthropocentré. Là, au moins, tu nous as bien humiliés.
Tu es cafardo.
On a pris bien cher.
Non, mais on a pris bien cher. Et je résumerai ton rôle ce soir à celui de théoricien du complot de Hard SF. Et c'était peut-être la première chronique Hard SF, même si j'imagine complètement non maîtrisée.
Ah oui, non, complètement non maîtrisée.
Il y avait quand même un côté. D'ailleurs, en parlant de Hard SF,
ah non, c'est la deuxième. Parce qu'il y avait celle, la mienne de l'épisode 26.
Là, oui.
Tant pour moi.
Effectivement. La mienne aussi, un petit peu. Mais typiquement, et du coup, Hard SF impliquant très compliqué, plein de mots compliqués, des choses très techniques, voilà. Est-ce que tu peux nous redire juste ta première phrase sur les ondes gravitationnelles du début? Parce que c'était quand même.
Alors, c'est
tu l'as saoulé, il a fait.
Son travail consiste à lire et analyser les millions de lignes de données récoltées par les capteurs laser de plus de 4 km de long afin de détecter les infimes fluctuations dans le tissu gravitationnel de l'univers.
Ah non, il n'y avait pas un truc avec des ondes gravitationnelles, un truc un peu technique avec des ondes gravitationnelles.
Ce soir, c'était pas assez technique pour toi.
C'est clair, j'ai fait exprès de mettre une longue phrase en plus. Ce soir, Joseph travaille tard. Comme tous les soirs depuis le lancement de LIGO et de Virgo, les deux observatoires terrestres d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser.
Voilà, celle-là, je l'aimais bien.
Interférométrie laser.
Ça me fait plaisir. Et sinon, tu dis abasourdi aussi.
Oui, je dis abasourdi, mais les deux voilà. Se disent.
Mais
donc,
c'est si, on dit abasourdi.
Moi, je dis abasourdi.
Mais je crois que le bon terme, toi, c'est abasourdi.
T'es abasourdi.
Laisse-moi vérifier. Ouais. Article 2442. Abasourdi.
Ok, autant pour moi.
Je crois que les deux se disent, mais je crois qu'abasourdi, c'est mieux.
Ok. Et moi, j'ai une dernière question. Après, Thomas, je te laisse si t'en as, parce que...
Oui, j'ai deux, trois trucs à dire.
Ok. Ma dernière question n'était pas pour Florian. C'était pas non plus pour Thomas. En tout cas, parce que c'était pas une question. C'était plus une remarque. Mm-hmm. Mais ma remarque est, tu t'es donné, Thomas, pour le Pokédex cafard.
Ah, j'aime.
Ah oui.
Est-ce que tu peux refaire
j'ai
ta
improvisé.
Petite voix pincée bon. Du nez comme ça? Enfin, t'avais une petite
Ramalos, Pokémon de type O.
Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce.
En fait, c'est C3PO. Ce hein. C'est juste C3PO.
Ouais, ouais. C'est vrai. Mais le Pokédex a quand même une voix très distincte.
Enfin, oui, peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les Pokémon.
J'ai pas vieux Pokédex.
Et si j'allais hoster le podcast comme ça à présent. Bonjour, c'est moi. Moi, Florian, je voulais dire un truc parce que je rebondis parce que bon, clairement.
Vas-y, rebondis.
D'abord, c'est le Florian qu'on aime là, ce soir. C'est le Florian noir qui swing un peu, qui est dans sa fumée de cigario vanille. Tu vois ce que je veux dire, un peu genre.
Ouais,
c'est
vrai. Ouais.
Ça, c'est
un peu jazzy.
On attendait un peu la voix, tu sais, la voix de l'inspecteur là.
Ouais.
L'inspecteur soir, Joseph travaille tard.
Exactement. On aurait voulu ça, mais pas trop demandé. En revanche, gros point noir. Ça, c'était le côté positif. Côté négatif, on a encore tapé sur Sardou.
Oui, on a tapé sur Sardou, mais
catastrophe mais planétaire.
J'ai hésité entre différents artistes et Sardou, c'est quand même
marre de ces podcasts de gauchistes.
Je l'ai cette époque. Je la déteste. Ça résonne beaucoup hein, quand on n'est pas au château.
Oui, mais peut-être que les gens l'entendront pas.
C'est pas grave.
Mais ouais, non, Sardou, parce que il fallait taper sur un chanteur et qui de mieux que Sardou pour taper dessus quoi.
Qui mieux que Sardou pour réparer votre Sardou. Très bien.
Donc voilà.
Très bien.
Peut-être une autre question.
Non, pour moi c'est tout bon. Ah oui, je voulais savoir juste un truc. Les cafards captent vraiment la télé avec leurs antennes?
Non, pas un seul instant.
Parce que ça faisait très wikipédiesque. Alors,
c'est vrai, mais comme on ne peut pas voir le futur non plus avec les ondes gravitationnelles, mais c'est une interprétation de l'esprit, une vision romancée de la réalité et de la science.
Et c'est pour ça que les gens écoutent Alien et les garçons.
C'est pour cette plus-value, tu vois. Pour cette analyse pointue.
Voilà. Exactement. Et tu formidable. Sais ce que j'ai entendu l'autre jour, tu sais pas quoi sur les cafards. Et hop, là, légende urbaine, les cours d'école, fake news.
Et tac, chronique, et là, direct.
Et puis on finit à la présidence d'un pays.
C'est vrai.
Non,
d'un petit pays.
Hein. D'un petit pays. Non, faut pas déconner.
Super. La question qui me taraude, c'est est-ce que Vic va être à l'auteur de cette chronique autant couleur?
À mon avis, je vais monter une marche encore.
Super.
Encore une marche.
Ouh.
Je m'auto-pressionne.
Ça va se finir dans un octogone, cette histoire. À coup de Toblerone.
Non, allez. C'était une très bonne. J'espère être à la hauteur. Nous verrons bien.
Eh ben, on va voir tout de suite.
Et voyons.
Le récit de science-fiction.
Plan sur le héros. C'est le personnage principal. Il se tient droit et fier. Aux blessures qui lui couvrent les bras, aux vêtements déchirés qu'il porte, et à la terre qui lui macule le visage, on sent qu'il a dû en baver pour arriver jusqu'à ce décor sombre d'épilogue tragique. Nous ne sommes qu'au début de cette histoire, et déjà les éléments semblent réunis pour un dénouement final. D'ailleurs, alors que le narrateur entre dans le vif du sujet, une musique épique commence. Gros plan sur les yeux du héros, façon western. Il se plisse, on sent de la détermination mêlée à la fatigue. Son regard est profond, perçant, presque viscéral. Mais que regarde-t-il ? Champ contre champ. Face à lui, le méchant de l'histoire. Sombre, crasseux et sinistre. Des pieds à la tête, les codes des plus grands méchants sont respectés. Il a l'air redoutable. Au pied du méchant gît la femme, tremblante et affaiblie. À cet instant, personne ne sait qui est la femme, ni ce qui lui est arrivé. Et même le narrateur, pourtant omniscient, ne dévoile rien. On se doute seulement que la femme est un personnage important. On imagine que le héros doit sauver la femme, sans doute sa femme, des griffes du méchant. Et que pour cela, il n'hésitera ni à tuer, ni à déclencher le bouquet final de l'histoire. Comme le disait le narrateur dans sa description du regard du héros, c'est bien la détermination qui l'anime principalement dans cette séquence. La dernière avant le rideau, avant le point sans retour à la ligne, avant le mot « fin ». Mais à cet instant, à la fois introductif et conclusif, l'histoire prend un tournant très populaire et éculé, un retour dans le temps. La musique s'arrête. Fondu au noir, un texte s'écrit « 3 mois avant ». C'est un flashback. Avant d'aller plus loin, il est intéressant de s'attarder un instant sur la structure narrative de cette histoire. Elle est assez classique et présente une intrigue simple, basée sur les 5 étapes du récit. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, résolution, et enfin, situation finale dont vous venez de vivre un aperçu en introduction. Le genre narratif utilisé ici est la science-fiction. Les costumes et les décors utilisés sont sans appel, nous sommes dans un futur plus ou moins proche et tout à fait conventionnel. Au début de l'histoire, qui commence donc avec le flashback dans lequel nous nous trouvons actuellement, nous découvrons le héros en train de marcher dans un décor de couloir de vaisseau spatial, au milieu de figurants de différentes espèces, inspirés par l'imaginaire du space opéra. Les langues utilisées par les figurants sont imaginaires, certaines pleines de K, de Kr, de Gr, indiquant des espèces plutôt belliqueuses, d'autres plus sifflantes, basées sur des sons plus stridents, et soulignant ainsi le caractère plus malin et sournois d'une espèce, ou encore les gentils jeux de mots balbutiants des espèces plus bouffonnes et joviales. Nous ne les comprenons pas, elles ne sont pas essentielles au récit. Nous suivons seulement le héros, qui arrive dans la salle de commandement du vaisseau. Dans ce décor, il tombe alors sur un personnage secondaire important, en la personne du commandant, qui s'adresse ainsi au héros. « Héros !» dit le commandant d'un ton grave, avant de relever les yeux et de reprendre. « Le décor est maintenant planté, et, en tant que personnage secondaire important, je vais maintenant déclencher ta quête. Celle-ci t'amènera aux confins de cet univers, au cœur de batailles et d'actions héroïques. Bien sûr, la suite d'actions que tu t'apprêtes à vivre révélera aussi bien tes bons côtés que tes plus sombres, car tu es un héros moderne, sache-le. » Le personnage secondaire important marque une pause, puis attrape un objet important qu'il tend au héros. Ce dernier attrape l'objet important et le fixe. Les émotions remontent en lui. Cet objet important, le narrateur omniscient ne l'explique pas, et nous apprendrons plus tard dans l'intrigue sa véritable utilité. Nous nous doutons simplement que l'objet important l'est, puisque le focus reste longtemps dessus. Le héros repose l'objet important, puis s'adresse au personnage secondaire important ainsi. Péripétie après péripétie, décision après décision. J'entreprendrai toutes les actions nécessaires pour atteindre ce but. Je vous promets, commandant, d'accumuler toutes les tensions jusqu'au climax de cette histoire, afin que les éléments de résolution de celle-ci lui mettent un terme heureux, ouvert et digne des plus grands récits. Personnage secondaire important, je vous l'assure, je ferai mon possible pour que l'on se souvienne de moi, mais aussi de vous, comme de 2 personnages cultes de la grande culture de la narration. Sur ces mots, prononcés avec justesse et opiniâtreté, le héros, le commandant et son vaisseau, ainsi que tous les figurants en arrière-plan, disparaissent dans l'obscurité de l'espace avec l'image qui vire au noir. Le générique d'introduction commence. Alors que le générique présente les différents personnages de l'histoire, il est à noter que les péripéties qui suivront, mentionnées dans le dialogue précédent, ne seront pas abordées ici. Comme vous avez dû le constater jusqu'à présent, le narrateur s'attarde particulièrement sur la structure narrative plutôt que sur le fond. C'est tout à fait voulu. Il s'agit ici d'une technique destinée à laisser recours à l'imagination de chacun pour habiller cette structure d'images personnelles faisant appel aux souvenirs liés à cette catégorie d'histoire qui pourrait être classée et sous-classée selon le chemin suivant. Récit fictif, rangé dans la catégorie littéraire ou cinématographique, c'est dur à dire, développé dans le genre de la science-fiction et dans le sous-genre du space opéra, suivant la chronologie tout à fait conventionnelle d'une quête héroïque, elle-même matinée d'une histoire visiblement romantique et ou au moins affective. À cette étape, il faut tout de même rappeler que le thème vibration sera bien respecté dans le récit, puisqu'on l'apprendra plus tard, le héros a une particularité qui lui donne sa saveur et permet également de différencier cette histoire des nombreuses autres issues du monde riche et foisonnant de la science-fiction. En effet, le héros est équipé d'un implant placé dans sa boîte crânienne. Le héros et son implant, qui jouent ici le rôle à part entière de compagnon du héros, ou de faire-valoir, ou en anglais de sidekick, peuvent communiquer ensemble par conduction osseuse, c'est-à-dire par vibration mécanique appliquée directement aux os du crâne du héros. L'implant est en fait une intelligence artificielle connectée au réseau central d'informations imaginé dans le cadre de cet univers qui lui permet de conseiller le héros tout au long de sa quête. C'est ainsi que l'une après l'autre, le couple héros-implant surmontera chaque péripétie afin de faire avancer l'histoire et de ramener le narrateur, ainsi que vous, moi, ou toute autre personne découvrant cette histoire sur les rails du récit, jusqu'à la situation développée en introduction, c'est-à-dire la situation finale, puisqu'on le rappelle, tout est développé au sein d'un flashback. Revenons-y donc dès maintenant, la boucle est bouclée, l'introduction, maintenant conclusion. Gros plan sur les yeux du héros, façon western. Il se plisse, on sent de la détermination mêlée à la fatigue. Son regard est profond, perçant, presque viscéral. Mais que regarde-t-il ? Champ contre champ. Face à lui, le méchant de l'histoire. D'une voix rauque et redoutable, le méchant met le héros face à un choix.
Héros, cette histoire touche à sa fin. Et je vais maintenant te demander de prendre une décision drastique, digne du personnage principal que tu es, digne du protagoniste de position que je suis, et digne d'une conclusion manichéenne mais efficace, qui fera parler d'elle après elle. Ce choix, tu le connais, tout le monde la connaît. Je tiens ici la femme, qui, si elle n'était pas le but ultime de ta quête au départ de l'histoire, est devenue suite au changement de direction apporté par les actions que tu as prises dans la trame du récit. Vas-tu sauver la femme, héros, ou vas-tu t'en tenir à ta quête ?
Finit par dire le méchant dans un gloussement fier et machiavélique. À cet instant, un focus sur le héros montre une hésitation. Oh non, ce n'est pas possible. Une hésitation. Comment ? Alors que n'importe qui, si on lui demandait, pourrait donner le bon choix au héros. C'est impossible. Comment peut-il ? Il n'y a pas d'hésitation à avoir, si ? Et pourtant, cela se confirme. Plusieurs effets narratifs confirment le problème. Le héros hésite bel et bien à prendre le bon choix. Le seul choix à prendre, fidèle au poncif du genre. Le méchant sent cette hésitation chez son adversaire et éclate d'un rire venu de la nuit la plus sombre. C'est là que le narrateur, amusé à l'idée que tout le monde attend d'une action héroïque du héros, prend la tangente et fait agir non le héros, mais la femme. C'est ce que l'on appelle un retournement, ou un twist du schéma de narration. La femme du héros, dont plus personne n'attendait d'action importante dans ce climax étouffant, décide de prendre les choses en main face à l'hésitation de celui qui était censé agir. Alors que son action se déroule rapidement, tout semble au contraire ralenti lorsque la femme du héros suit sa trame de résolution. Mais vous l'avez peut-être deviné, c'est finalement un double retournement de situation qui se produit, car la femme du héros ne parvient pas à réaliser ce qu'elle voulait. Et c'est finalement le méchant qui réagit le premier pour mettre un terme à l'espoir d'une fin positive. Le héros crie et bondit dans le même mouvement. Mais c'est trop tard pour l'optimisme. Le méchant a déjà fui dans un grondement sourd. Et là, alors que la crainte d'une situation finale dégradée ne semble se confirmer à travers les yeux sombres du héros, un dernier plan se stabilise. C'est un nouveau focus sur ce que tout le monde avait oublié. Et oui, c'est bien cela. On ne rêve pas. C'est bien l'objet important, amorcé en introduction du récit, qui se trouve seul face à nous lorsque l'écran s'assombrit et que le point final, accompagné du mot fin, apparaisse. Une fin ouverte, car c'était à prévoir. Il y aura bien une suite au récit. This is the hand.
Épique, épique motherfucker.
Vivement la suite.
On est pressé.
Dommage que la fin était moins musicale, j'aurais vraiment aimé chanter.
Alors,
c'était du grand Vic.
Et c'était à mon tour de ne rien comprendre. C'est le podcast en fait, de l'incompréhension. En fait, c'était extrêmement limpide parce que du coup, tu as énoncé tous les principes de narration dans ces moindres détails. Et à la fois, du coup, c'est ça aussi qui perd un peu les gens parce que forcément, il y a moins de dialogue, il y a plus de descriptions et il y a des flashbacks. On fait une kipite et puis après, il y a un double retournement et puis au final, il y a un cliffhanger.
Et vas-y que je te pousse. Et vas-y que.
C'est assez simple. Il n'y a pas vraiment d'histoire, hein, comme vous l'avez.
Ouais, c'est ça.
C'était vraiment une histoire sans
d'ailleurs,
histoire.
D'ailleurs, le narrateur le dit à un moment donné qu'il n'y a pas vraiment d'histoire.
Ouais, c'est ça. C'est
une métachronique. En tout cas, il y a un métatexte. Ah, c'était vraiment un métatexte parce que c'était le commentaire de l'histoire qui était l'histoire.
Ouais, c'est ça, exactement. En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Et ça, c'est un truc qui m'avait été. Je sais pas si vous avez lu une saga, j'ai lu quand j'étais plus jeune une saga de fantasy qui s'appelait L'Assassin Royal de Robin Hobb, très très bonne,
très,
ça fait longtemps que je n'ai plus de fantasy, mais en tout cas dans le monde de la fantasy c'est une très très bonne saga. Et en fait dans cette série de Robin Hobb, sacré auteur, ces personnages, pas tous, mais ces personnages ont parfois le nom de ce qu'ils sont. Donc j'en ai noté quelques-uns là, mais par exemple, le personnage principal, lui, non, ce qui s'appelle Fitz, mais les autres personnages, je les ai renotés là parce que je m'en souvenais plus, je
vais
chercher. C'est presque ça, mais du coup, j'ai un peu poussé le truc. Mais il y en a un qui est le prince chevalerie, c'est le mec qui est assez chevaleresque, c'est un mec sympa. Le roi, au début de l'histoire, s'appelle le roi subtil et c'est un mec assez intelligent, un mec assez lucide. Il y a Dame Patience, qui, vous comprenez tout de suite.
Ah, c'est le prince vérité, qui est un mec qui, voilà. Ça vient des contes presque.
T'as Royal, qui lui, c'est le prince un peu fourbe et cruel, etc., etc. C'est en fait basé sur le même principe.
Numéro 1 et.
Mais c'est un peu ça, et en fait c'est un peu basé sur le même principe que quand un personnage de fou dans un truc, son seul nom qu'on lui donne c'est le fou, et en fait son nom est aussi son rôle dans l'histoire,
ce qui détermine
ça m'a toujours fait triper. J'ai toujours voulu faire une histoire où, enfin là c'est bon, voilà, c'est juste le temps d'une chronique, etc., mais je trouvais ça marrant de donner vraiment les dessous du personnage, ce à quoi ils sont censés servir, ce qui permet aussi effectivement après de mettre en lumière les schémas de narration qu'on retrouve tout le temps.
C'est drôle parce que dans Le Samouraï Virtuel, c'était une de mes recos du club culture qu'on avait créé à Denis Stevenson, le personnage principal s'appelle Hero Protagoniste. Donc c'est exactement ça. C'est une sorte d'aptonyme. L'aptonyme normalement c'est quand ton nom de famille ça réfère à toi.
C'est comme Joseph Plombier qui est plombier.
Exactement. Et du coup, c'est un peu ça, c'est un aptonyme.
Mais c'est exactement ça, Joseph Plombier qui est plombier. J'ai eu l'occasion d'aller visiter Lisbonne. Et Lisbonne est la ville du monde avec le plus de. Dans les commerces.
Attention à ce que tu vas dire.
Oh là là, oh putain.
Alors, il y a un truc qui pourrait être porté à confusion.
Non, bien sûr.
Tu vois, vu que je suis dans quelque chose de sérieux et quelque chose. Voilà, je suis trop pur.
Trop pur pour ce podcast.
Non, ce que je voulais juste te dire, c'est que les commerces, les boulangeries s'appellent boulangerie.
Oui. Comme en France, non?
Non, parce qu'en France, c'est toujours la boulangerie du château ou la boulangerie de machin, tu vois. Là-bas, c'est genre, ça porte le nom de ce que ça fait. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais bon, en plus, à Lisbonne, c'est un peu vieux c'est vraiment une vieille ville. Et du coup, je trouve ça romantique. J'aime bien cette idée.
On est passé à deux doigts de réactiver la cagnotte.
Ça, j'avoue. En même temps, c'est pas facile dans une ville. Alors, je sais, ça n'a aucun rapport avec ta chronique, mais c'est pas facile dans une ville remplie de boulangeries qui s'appelle boulangerie, parce que du coup, c'est compliqué d'envoyer du courrier et des factures.
Et la meilleure boulangerie de Lisbonne est.
Boucherie.
Oh non. Et moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a ce que tu fais. Alors, j'ai bien aimé globalement parce que je suis plutôt friand de tout ce qui est métafiction, etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment donné, à trois moments, tu brouilles un peu les niveaux diégétiques parce que tu vas te dire que À un moment donné, c'est le, comment dire, le personnage qui, en tant que personnage, dit ce qu'il va faire pour l'histoire. Il va dire, je vais faire de mon mieux pour que l'histoire soit trépidante. Et ça, j'adore, j'adore. Ouais. Le méchant fait, je serai sacrément méchant avec toi. Puis le narrateur fait, le narrateur s'attachait vraiment à décrire la forme plutôt que le fond. C'est vraiment ce que j'aime.
C'est tout à fait voulu.
C'est superbe. J'ai adoré. C'est vraiment très David Foster Wallace. Encore. Je suis désolé, un épisode sur deux, on parle de lui. Oh, il nous a envoyé un petit son.
Ouais, non,
ça, c'est le problème d'être assis sur un canapé avec un verre de blanc.
C'est clair. Je déclenche les sons un peu n'importe quoi.
Au château, on est quand même vachement plus. Vachement
c'est plus carré. C'est
et
carré.
Ouais, du coup, ça m'a rappelé beaucoup David Foster Wallace, notamment certaines de ses nouvelles qui sont vachement. Où il s'attache beaucoup à la forme pour finalement créer un fond. Et c'est vraiment, vraiment ça. Et voilà.
Et j'ai une question tout de même. Quid du thème vibration? Alors je sais que toi t'en as directement parlé à un moment donné pour dire genre, et c'est là que je place le thème et là, j'ai la vague, c'est lien avec le thème.
C'était drôle parce que j'étais persuadé qu'on allait me faire cette remarque et on y reviendra plus tard, pas tout de suite. Je vais pas y répondre totalement tout de suite, mais on y reviendra plus tard.
On y reviendra dans l'épisode 26.
C'est ça. <quoi. rire>
Ça serait drôle.
On y reviendra dans l'ancien épisode. Mais quand même pour amorcer un début de réponse. J'avais écrit cette chronique vibration. J'ai trouvé que le thème était vachement dur. J'avais écrit toute une histoire avec ça, où c'était l'histoire d'un héros qui avait un implant dans la tête. Et pour être, du coup, je la ferai jamais cette histoire, mais je vous la raconte quand même très rapidement. Vous deviez jouer un des deux. Vous deviez jouer le héros et l'autre devait jouer son implant. Et je vous faisais comme ça, vous parlez.
Ah, c'est drôle.
Avec,
c'est
rigolo, c'était l'implant. C'était l'implant qui parlait toujours avec le héros et vous avanciez comme ça. Et moi, je mixais où genre Thomas était le héros et tu faisais je fais ça nana. Et puis moi, j'étais le narrateur qui faisait dis le héros. Tu sais, je te reprenais à chaque fois. Et en fait, j'avais mélangé un peu l'idée que j'ai finalement développée ici en métachronique plus l'idée de vous faire parler tous les deux avec. Ouais. En fait, c'était trop compliqué. J'ai pas réussi, ça s'est transformé en
ça. Je pense que t'as bien fait.
Ouais. mais j'ai quand même gardé le truc de l'implant héros. Et alors, mais j'étais quand même sûr que vu que maintenant il apparaît un petit peu comme un cheveu sur la soupe, qu'il y avait un de vous deux qui allait me dire ouais, enfin bon, ton truc vibration, c'est quand même pas. Mais franchement,
non, mais ça me va. Moi, tu sais, moi les thèmes, je les survole et ils roulent sur les rails de mon indifférence, tu sais.
Mais on y reviendra.
Très bien. Très bien.
Merci, c'était vraiment. On a eu deux superbes chroniques, je suis très content. On est très 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 en retard.
Du coup, je te pose la question. C'est pas grave.
Ouais.
Je te pose la question que tu m'as posée à la fin de la chronique du Florian.
Du Florian.
Du chronique du Florian. Le chronique du Florian. J'ai toujours eu un peu de mal avec les déterminants. Est-ce que ton chronique. Est-ce que le chronique du Thomas sera.
Moi, je sors de ma zone de confort parce que d'habitude, je fais des chroniques concept, un peu machin. Réalisme magique ou je sais pas quoi, ou métafictionnel, un truc comme ça. Là, j'essaie de faire un truc plus traditionnel avec une histoire, un début, une fin.
Bien écoute.
Et j'ai essayé de refaire un peu l'histoire d'Archie, mais en version plus cheap parce que j'avais pas le temps.
Donc là,
mais
en
un
gros,
peu différente aussi.
Là, en gros, c'est quitte ou double. On prend l'ascenseur, on verra si on monte vachement plus haut ou si on coupe le câble et qu'on tombe 10 minutes.
De toute façon, je pense que le câble a été coupé largement par Vic parce que là, on est parti dans autre chose. Hein. Donc là, je m'inscris pas directement en concurrence avec lui.
Écoute, suis prêt à lancer les sons que tu m'as fait télécharger et j'ai hâte
d'écouter. Et c'est parti aussi méta.
Alors, juste un petit point avant qu'on passe à ma chronique. On fait vraiment beaucoup de bruit de micro.
Ah ouais, avec les câbles.
On rappelle qu'on n'a pas de pied de micro, c'est compliqué. Exactement comme dans l'épisode précédent d'ailleurs, n'est-ce pas? Vous vous souvenez?
Oui, exactement. Comme ça, je me souviens très bien.
Et du coup, on fait un peu des bruits de. Comme ça, mais c'est parce qu'on les a dans la main.
Toi, en vrai.
Ouais, parce que j'ai des grosses mains.
Ouais, c'est ça.
Bref, allez, on passe à ma chronique.
Le reflet d'Oscar Henry.
Oscar Henry contemple son reflet dans la glace. Plutôt pas dégueu, se dit-il. Rasage parfait, chevelure rafraîchie de la veille, combi sur mesure parfaitement coupée, dentition blanche juste ce qu'il faut pour rester naturel, il est prêt à pousser la porte de ses quartiers du New Atlantic Regional Spaceport et à affronter les médias du monde entier qui l'attendent un peu plus loin. Oscar Henry sera bientôt le premier homme à poser le pied sur Mars. On estime que c'est entre 6 et 6 milliards et demi d'individus qui se sont rassemblés devant des écrans pour assister au décollage de la navette. Le record détenu jusqu'alors par le mariage de George VII d'Angleterre est donc largement battu. Oscar en a parfaitement conscience, et il compte bien profiter de la situation. Sur l'esplanade, il prend son temps pour saluer la foule, pour jeter des regards complices aux caméras. Peu importe s'il y a moins d'une heure encore, il faisait l'étalage d'une médiocrité humaine flagrante, exhibant un sexe tendu à la stagiaire communication venue le féliciter après la conférence de presse. Pour le commun des mortels, Oscar est de l'étoffe des héros, de ceux qu'on ne voit plus depuis longtemps, ceux du XXe siècle, quand tout était encore possible. À travers lui, c'est toute l'humanité qui rêve. Il est la plus grande idole de tous les temps, un Superman en chair et en os, même les journalistes perdent leur professionnalisme et l'applaudissent, emportés par la ferveur contagieuse qui a gagné toute la planète. C'est galvanisé et les bourses allégées, Oscar embarque dans l'habitacle de la navette, non sans jeter un dernier regard jubilatoire à la marée humaine venue de l'OCT, d'une seule voix, un bon voyage.
Start. 2, 1, boost ignition, and lift off of the Space Center Discovery, returning to the Space Station Haven Way.
Ignition. La navette quitte le sol. Quelques secondes lui suffisent pour atteindre l'orbite basse terrestre où une équipe l'attend pour finaliser son assemblage en un temps record et préciser sa trajectoire vers Mars. Le vrai départ est pour dans quelques secondes. Le système de lancement s'active pour la seconde fois de la journée. La navette à présent complète accélère à une vitesse de 3,8 km par seconde. Assez pour échapper à la gravité terrestre, mais suffisamment peu pour pouvoir décélérer sans gaspiller de carburant une fois arrivée à destination. Tout a été pris en compte. C'est des années d'efforts conjoints impliquant des milliers d'individus qui payent enfin. Tant d'énergie dépensée, tant de sacrifices pour faire de cette mission une réussite. À présent seul, plus personne ne le regarde, alors Oscar ne sourit pas. Mais derrière sa boîte crânienne, de la dopamine sécrétée par son cerveau stimule ses neurones. Signe qu'il éprouve un grand plaisir. Oscar songe aux différentes formules qu'il a en option pour son premier pas sur Mars. L'instant sera historique, il s'agit de faire le bon choix. Il hésite entre quelque chose de grandiose, d'humaniste, un tout nouveau monde pour cette bonne vieille humanité. Ou quelque chose de léger comme « Quelqu'un sait où je peux trouver un Starbucks ici ?» C'est drôle ça, le coup du Starbucks. Ça me rendra sympathique, ça me rendra cool, se dit-il. Et la dopamine n'a de cesse de circuler encore et encore et encore, et 211 jours passent. Quelqu'un sait où je peux trouver un Starbucks ici ? Dit Oscar en bondissant de sa capsule vers le sol martien. Sa voix est entendue en direct simultanément par la majeure partie de l'humanité, à 70 millions de kilomètres de là. Tous ces milliards d'individus ont discerné la même singularité apparemment sans importance, mais qui leur a pourtant accroché l'oreille. La voix de Oscar Henry a déraillé, elle est devenue fébrile. En un instant, sa teinte d'assurance habituelle s'est volatilisée pour céder place à un vibrato qu'on ne lui connaissait pas jusqu'alors. Quelque chose a eu lieu lorsqu'il a foulé le sol. Il a été au mieux surpris, au pire terrifié. Sur Terre, les visages se détournent enfin des écrans pour chercher des explications auprès d'autres visages autour d'eux. Pendant ce qui semble durer une éternité, Oscar se tait. Une seconde s'écoule, puis une deuxième. Enfin, un raclement de gorge martien parvient aux oreilles des terriens. Capcom, je commence ma mission. Déjà, l'hésitation dans sa voix est oubliée et la magie opère à nouveau. On a envoyé un homme sur Mars. Bientôt, des célébrations seront organisées partout dans le monde. Pourtant, Oscar le sait, quelque chose a bel et bien eu lieu. Il n'a aucun doute sur ce point, il l'a senti. Lorsqu'il a posé son pied droit sur Mars, lorsque le contact s'est fait entre lui et la roche, la planète a vibré pendant quelque chose comme un quart de seconde. Une vibration puissante, évidente. Au même instant, son flux de pensée s'est détourné et s'est accéléré. Comment une planète peut-elle vibrer ? Il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre, et d'ailleurs les activités sismiques martiennes sont particulièrement rares et d'une intensité extrêmement faible. Est-ce que ceci n'était qu'un vertige ? Une illusion provoquée par l'émotion ? La capsule a pourtant vibré elle aussi. Et puis Oscar le sait, il est un homme, un vrai, pas du genre à s'émouvoir comme une femmelette. Tout ceci doit avoir une explication. Comment la planète a-t-elle pu réagir au contact d'une foulée ? Comment une planète peut-elle simplement vibrer ? Mars a effectivement vibré. La planète dans son ensemble. Mais du fait, peut-on appeler Mars une planète ? La vibration a été provoquée par l'émission d'un signal en direction de l'espace. Et ce signal n'a pas été envoyé par hasard. À son origine se trouve un dispositif avancé capable de détecter la matière complexe, comme des lipides, des acides aminés ou nucléiques, ou encore des hydrates de carbone. C'est-à-dire précisément ce dont est composé Oscar Henry. Le signal, qui ferait à la fois la honte et le bonheur de Einstein, traverse la galaxie à environ 18 millions de fois la vitesse de la lumière. Ce qui signifie qu'il est arrivé à son destinataire, ou plutôt ses destinataires, quelques secondes après son départ. Une fois réceptionné, il est analysé par un superordinateur en une fraction de seconde. Sa conclusion est la suivante. Vie détectée, probabilité 99,999%. Dans la foulée, un objet que l'on peut qualifier de monolithe ou de vaisseau est envoyé en direction de l'origine du signal, c'est-à-dire en direction du système solaire. Revoilà Oscar. Sa capsule se situe à quelques milliers de kilomètres de la Terre. Cette vingtaine de jours martiens est passée en un éclair. Entre les prélèvements, les expériences, les mesures diverses et variées, l'emploi du temps chargé d'Oscar ne lui a pas laissé un instant de répit. Il repense à la vibration. Ce qui s'est passé lorsqu'il a posé le pied sur la surface martienne n'a jamais quitté ses pensées. Mais à présent, il donne moins d'importance à ce phénomène, allant même jusqu'à douter de son existence réelle. L'esprit humain est ainsi fait. Il est imparfait, il oublie, il se trompe, il se ment. Tandis que sa capsule entre en contact avec le tarmac du New Atlantic Regional Spaceport, Oscar songe à la nouvelle vie qui l'attend. Il le sait, son retour sera un triomphe. Oscar Henry, le premier homme à avoir marché sur Mars. Ça sonne bien. L'image de la stagiaire communication lui revient, et bien qu'il sait qu'il pourrait avoir n'importe quelle femme maintenant, il espère que son stage ne sera pas achevé pendant son absence. Il a l'intention de la revoir, elle en particulier, puis d'autres ensuite, bien sûr. Ce serait dommage de ne pas en profiter de ce nouveau statut de superstar. Et son éloignement a été bien long pour lui et ses besoins d'homme. À ce moment précis, personne ne regarde Oscar, pourtant, il sourit, en se projetant avec la stagiaire dans une situation intime. Dans son cerveau, de la dopamine est massivement libérée alors qu'il enclenche le mécanisme qui ouvre l'issue de la capsule. C'est son grand moment. Enfin, il le sait, les yeux du monde entier seront à nouveau braqués sur lui, une fois hors de la capsule. Oscar se lève, se recoiffe, ajuste sa combinaison et sort. Ça y est, il est dehors. Mais plutôt qu'une foule en délire, il y a les visages fermés de quelques employés de la NASA. Plutôt que des centaines de journalistes, il y a l'unique photographe officiel de la mission. Plutôt que la petite stagiaire si alléchante, il y a Gary, un employé de seconde zone qui l'accueille avec un sourire triste. C'est de l'autre côté de la Terre, en Extrême-Orient russe, que les journalistes du monde entier se sont retrouvés. Plus précisément dans le Kraï, là où se trouve le monolithe massif qui est apparu la veille et qui s'est avéré être un vaisseau transportant des individus d'une race extraterrestre. Tout cela, Oscar l'apprend par Gary, quelques secondes après avoir pris la pause pour la photo officielle. Oscar apprend aussi que cette race extraterrestre se fait appeler les juges. Ils parcourent la galaxie pour rencontrer ces peuples et examiner leur sens moral qui est, selon eux, l'unique critère d'appréciation vraiment sérieux en ce qui concerne la vie intelligente. C'est aujourd'hui au tour de l'humanité qui est entrée, il y a peu, dans la catégorie « race interplanétaire » grâce au pied droit d'Oscar Henry. Pauvre Oscar, et pauvre humanité, comment aurait-elle pu savoir que Mars était un astre artificiel conçu par les juges pour détecter la vie ? Et plus spécifiquement, pour détecter les civilisations qui entrent dans leur ère interplanétaire. Pas avant pour leur laisser le temps de gagner en maturité, et pas après pour limiter les dégâts qu'elles pourraient être amenées à faire. Comment l'humanité aurait-elle simplement pu deviner l'existence d'une telle espèce extraterrestre ? Bien sûr que si elle avait été au courant depuis le début, les choses se seraient déroulées autrement sur Terre. Les humains ne sont pas mauvais, ils cherchent simplement à vivre leur vie au mieux, et ils peuvent faire des erreurs bien sûr. Mais non, ils ne sont pas mauvais. Les juger ainsi, dans ces conditions, ce n'est pas juste. C'est les prendre au piège. Et de toute façon, les coupables, ce sont les autres. Ce sont les religieux qui choisissent l'ignorance. Ce sont les athées qui vivent sans spiritualité. Ce sont les gouvernements qui tracent les lignes d'une société mauvaise par nature. Ce sont les Américains et leur culture impérialiste individualiste. Ce sont les Chinois qui ne respectent pas les droits de l'homme. C'est le tiers-monde, c'est les Noirs, c'est les Juifs, les jeunes, les réfugiés, les PD, les 1%, les écolos. Et voilà le résultat. Mais d'ailleurs, le coupable n'est-il pas plutôt l'évolution ? Les humains vivent sous le joug de leur propre nature. Ils sont les victimes, pas les coupables. Non, décidément, l'humanité ne peut pas être coupable. Voici peu ou prou l'opinion d'Oscar et de la plupart des humains qui, plutôt que de se regarder eux-mêmes, regardent le monolithe disparaître dans le ciel, alors que le jugement a été rendu et qu'au même instant, un rayon oblitérant s'apprête à être adressé à Oscar, la Terre, ses habitants et leurs bêtises infinies pour enfin les réduire en poussière.
Eh bien,
J'aime bien l'idée que la conquête de Mars, le premier pas de l'homme sur Mars, soit complètement volée par le fait qu'une civilisation extraterrestre arrive au même moment sur Terre.
Super.
C'est pas de chance.
J'adore le pitch.
C'est souligné le meilleur. Enfin, la chronique est très bien. Je suis très content de cet épisode où je trouve que les trois chroniques sont très bien. Mais le meilleur moment de cette chronique, c'est effectivement le coup trop bien, je trouve. C'est la même chose que Florian. C'est trop bien, je trouve, que le mec revienne.
Il y a personne.
Là, t'as tout le monde. Et au début, je me suis dit, tu vas faire une fin genre. Je voudrais pas spoiler la série du coup, mais une espèce de twist final dans lequel. Bah non, en fait, il était jamais parti, tu vois. Ah,
je vois quelle série tu parles.
Ouais.
Voilà, okay, on voit pas, donc me spoiler
pas.
Non,
on spoiler pas. Mais en gros, il était. Non, mais il était jamais parti, ou bien je sais pas. Enfin, un truc comme ça, un truc un peu gros. Mmh. En fait, non, il est vraiment parti. Il est vraiment revenu. Ça devrait vraiment être un héros,
mais
c'en est pas
vedette.
Un. Parce qu'en fait, il y a eu un autre truc qui s'est passé.
Beaucoup
tu vois.
Plus ouf.
Et
beaucoup
à cause de lui en plus, quoi. Parce qu'il a marché justement sur Mars.
Et c'est là où j'ai. Et c'est là où j'ai besoin d'explications. Du coup, les juges. D'école en fait, avec leur monolithe nana et viennent jusqu'à la Terre parce qu'il a marché sur Mars.
Exactement. En fait, j'ai pas voulu rentrer dans les explications dans le dur, mais ce qui se passe, c'est qu'en effet, quand il met son pied sur Mars, il sent une vibration. Et après, j'écris un peu sur ça. Et après, j'explique qu'il y a un signal qui est envoyé et qu'en fait, en effet, Mars, et c'est une sorte d'astre artificiel qui est une sorte de leurre, en fait, pas un leurre, mais.
C'est une sorte de détecteur de
mouvement. C'est un trigger.
Un détecteur de mouvement, exactement.
En fait, les juges, ils attendent que les espèces de l'humanité, la galaxie. Entre dans l'ère intergalactique, interplanétaire, donc c'est-à-dire le jour où ils sont capables d'aller sur notre planète, ce qui arrive. Et donc du coup,
ils viennent voir un peu ce qui se passe.
Qui pose des trucs. Mmh. Dès qu'ils voient une civilisation, ils posent une planète qui est pas en fait une planète et qui les signale genre, ça y est, eux ils sont prêts. On va aller voir ce qui se passe.
Je trouve ça très malin justement le fait que de justifier cette espèce de détecteur de mouvement comme étant le moment parfait. Où ils sont assez évolués, assez matures pour pouvoir se déplacer sur d'autres planètes, mais pas trop non plus pour pouvoir leur péter la gueule avec lanceur plasma. Tu vois.
Avant, ils commencent à devenir intelligents, on y va.
Ouais, c'est ça. Ouais,
exactement. Ouais. Et du coup, le jugement a été. Bah, c'est pour ça que j'ai dépeint un héros aussi détestable, Oscar Henry, qui.
À propos, puisqu'on parle d'Oscar Henry.
Ouais.
Parce que mieux vaut le lire à la française, je trouve. Oscar Henry. Plus que Oscar Henry.
Je trouve que Oscar Henry, du coup, c'est le nom de serial killer ou de
pédophile.
Ouais, enfin, en parlant de ça, excusez-moi, mais tu te moquais pas mal de moi, Florian, l'épisode. Ouais. Du coup, il y a deux épisodes. Hein. Même si pour nous, il n'y a qu'un
voyage
épisode.
Dans le temps.
Voilà, voyage dans le temps, c'est compliqué. Tu te moquais de moi, il y a deux épisodes. Oui, le travail sur les noms, etc. Mais il n'empêche que je crois pouvoir m'affirmer en tant que spécialiste des noms et. En cette qualité que spécialiste des noms, je valide complètement Oscar
Henry.
Selon l'article 24-42 des noms utilisés dans les chroniques de science-fiction, je trouve qu'Oscar Henry est un nom parfait pour le premier homme qui marche sur Mars.
Donc, je vais vous dire pourquoi il s'appelle Oscar Henry.
Ah bah, vas-y.
Alors, il s'appelle Oscar pour Oscar Wilde. Et Henry
pour Thierry Henry
pour Lord Henry du portrait de Dorian Gray.
Non, je préfère Thierry Henry, désolé Thomas. La vérité,
OK, on va cutter, je vais monter. Il s'appelle Oscar pour Oscar Wilde et Henry pour Thierry Henry.
Super, c'est exactement ce qu'on voulait. Merci beaucoup.
Voilà, ça me semble pas mal.
Non, mais en tout cas, voilà, ce nom est complètement validé, ça je me l'ai c'est le premier truc que je m'étais noté.
Ouais.
Je valide Oscar Henry, super nom pour le premier homme sur Mars. Voilà.
Maintenant, Vic, il est passé à un niveau où genre il commande plus les chroniques, on papote pas, c'est il valide ou pas.
D'ailleurs, en parlant de valider ou pas, tous coupables.
Ah non, mais justement, alors ça c'est assez drôle parce que donc j'ai voulu finir en présentant l'humanité d'une manière un peu négative dans le sens où ils veulent même pas se regarder eux-mêmes et dire ah mais non, c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres, c'est la faute machin.
Avant que tu dises sur ce que t'as vraiment voulu faire, moi je l'ai un peu senti comme un truc que l'humanité était trop anthropocentrée ou individualiste en tout cas pour accepter le jugement d'une civilisation supérieure.
C'est ça.
Ah oui. Donc c'est le cas, c'est des connards.
C'est le cas. Mais comme je le dis à plusieurs fois, j'ai essayé de parsemer le récit par des moments où on parle du cerveau d'Oscar Henry, du moment où je dis le cerveau humain est. Oh, il a mis le micro dans les chips.
Bon, bah, du coup, les puisque c'est assumé.
Oh putain. finir cet épisode.
On était là en train d'avoir fait de faire un moment la pipe.
Oh, ouais, c'est clair, c'était un moment là, la pipe et là c'est un moment la chips quoi. Je disais quoi ? Ah oui. J'essaie de parsemer le récit de moments où je décrivais le cerveau de manière pseudo-scientifique ou en tout cas pseudo-Welbeckienne ou de manière très rigoureuse pour expliquer que finalement on était aussi sous le joug de notre propre nature et qu'on est ce que notre système cognitif est en fait et qu'il n'est peut-être pas évolué dans la bonne manière, etc. Donc à la fois, oui, c'est à charge pour l'humanité, de toute façon ça se finit pas bien, mais en même temps il y a un petit pardon qui se fait genre bah... toute façon, on n'y peut rien, on n'y peut rien. On est coincé dans notre corps et dans notre cervelet, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai, tu viens de détruire la Terre, là. T'es en train un peu de prendre mon rôle tout doucement.
Oui, c'est vrai.
De détruire la Terre à chaque chronique.
Sauf que c'était assumé dès le début. Hein, parce qu'on est parti de la Terre, on y est revenu. C'est pas genre sur une galaxie lointaine. Quand soudain.
Quand tout à coup. Non, de pas tout du temps.
Et moi, pour conclure sur mes remarques de temps, j'aimerais juste souligner ta performance parce que ce n'était pas une chronique facile à lire. C'était la troisième. Et excité par l'idée d'être. On est arrivé à Nantes, techniquement, donc là voilà, on enregistre les 27, etc. On est arrivé à Nantes il y a peu, hein, finalement, c'est notre première soirée à
deux
Nantes.
Heures,
voilà, c'était il y a deux heures.
Et à la fois, il y a du coup un mois et demi maintenant.
Oui, voilà, c'est ça, quand on parle de paradoxe temporel.
Et si vous écoutez l'épisode dans 4 ans, il y a 4 ans et un mois et demi, mais bon.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vient d'arriver, on n'est pas au château, c'est quelque chose de, nous les utopiales, c'est quelque chose, on est très heureux.
Il est
pardon.
Pété, il est rond comme une
quépelle. Non, non, mais j'allais dire ça de toi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Enfin, c'est pas que j'allais dire ça de toi, j'allais juste te dire que, du coup, excité par l'occasion d'arriver à Nantes et de commencer le festival des Utopiales, on a pris un bel apéro. Hein.
Oui,
on n'a pas de Romanetti, mais
On
n'a pas mangé de la journée, on a fait un long voyage, on est fatigué, on a bu. T'es la troisième chronique, une chronique pas facile à lire. Donc voilà, je voulais juste souligner la performance.
Merci. Sans compter sur mon élocution douteuse dès le début en plus. Mais bon, bref.
Voilà,
je voudrais remercier mon manager.
Ton coach vocal aussi.
Et le fameux
Florian. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Florian, ou sinon j'ai un truc à dire?
Non, c'est bon, j'ai fini pour moi.
Et ben moi, je voulais juste dire que cette chronique m'a été inspirée par The Boys. La série, parce que finalement l'espèce de héros qui est un salaud derrière, j'ai écrit cette Oscar Henry comme étant le personnage de The Boys, celui qui joue
celui qui joue Superman,
exactement, qui joue Superman, Captain America,
d'où la stagiaire communication,
exactement, il baise une stagiaire machin, et puis c'est un sale con, il est un but de lui-même, il se regarde, il se trouve beau, voilà, c'était juste pour le rendre à César.
Serait-ce une recommandation officielle
ou officielle? Non, parce qu'on n'est pas dans le cadre des recommandations, mais on peut dire que c'est une bonne série. Mais
je pense que The Boys n'a pas besoin de nous.
C'est rigolo ou quoi?
On verra bien. Ils savent qui on est. Bah, allez, on est très 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 long. Très 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 dissipé. Et donc on va se dépêcher d'aller directement aux cuisses de Florian, qu'on va essayer d'être rapido.
Très bien.
C'est l'heure du quiz de Florian.
Mais j'ai envie de dire non.
Attends. Justement.
Oui.
Aujourd'hui, pour le quiz, je vous ai réservé une très grande surprise.
Est-ce que ce serait pas un coup d'état?
C'est un coup d'état.
Un coup d'état de Vic. Oui, car Thomas, tu ne le sais pas.
Encore une surprise, mon anniversaire?
Non.
Non, c'est pas ton... En fait, j'ai un peu l'impression, je me disais comment on va lui annoncer qu'en fait, c'est pas Florian qui fait le quiz.
Ah, c'est toi?
C'est moi.
Ah, bah, il n'y a pas de problème.
Oui, c'est ça. Mais en fait, je suis un peu
surprise en soi, quoi.
Non, c'est nul, tu vois.
Ah ouais, j'avoue,
c'est un peu comme faire un coup d'état, genre, on fait un coup d'état, on prend genre la direction d'une association où il y a genre trois mecs dedans, c'est trop nul. Bon, bah, alors du coup, c'est moi qui fais le quiz, Thomas.
Je redescends parce que j'étais sur un pied de siège de maître nageur et je redescends directement sur le tapis. Parce que...
Vous êtes les deux concurrents. Ce quiz, Thomas, je sais que ça ne te tient pas forcément à cœur que les quiz soient ancrés dans les thèmes des épisodes. Pour moi, c'est quelque chose d'important.
Très bien. Donc du coup,
très important.
Ce sera un quiz vibratoire. Est-ce que tu vas nous faire un blind test avec un vibromasseur sur la joue?
Non, ça, c'est juste le thème. C'est pas forcément la grande originalité, mais introduction.
Une nouvelle compréhension doit définitivement diriger notre manière de penser et d'agir. La nature des choses qui nous entourent est vibratoire et nos pensées, nos émotions, nos croyances sont en caractère magnétique. Tout cela fait de nous des émetteurs-récepteurs, contribuant ainsi à nous mettre en relation avec le champ d'énergie qui nous entoure. Selon que la nature de l'énergie émise sera positive ou négative, cela va déterminer la connexion avec une catégorie de circonstances positives ou négatives.
Florian, sur le tout à l'heure où tu m'as critiqué de ne pas avoir forcément suivi le thème vibration,
c'est vrai qu'il a suivi de ouf.
D'où ce quiz sur le thème de la vibration. J'aimerais me rattraper.
Est-ce qu'on va faire un truc New Age là?
Non. Il y a un peu de voilà. J'aimerais qu'on pense à la vibration en termes de.
De Gandhi.
Comme un élément vraiment qui est central dans l'univers, comme un élément très fort de magnétisme. Et pour cela, je vais vous demander, premièrement, de choisir deux noms d'équipe. J'aimerais qu'ils soient spirituels et dignes des plus grands noms d'équipe de quiz.
Je vais choisir le nom d'équipe. C'est Florian qui va choisir le nom d'équipe. Arctic 24-42.
Arctic 24-42, très spirituel. Merci Florian.
Je suis l'équipe Jésus Superstar.
Jésus Superstar contre Arctic 24-42. Très bien. Donc je vais vous faire écouter des sons. Et ces sons-là, il va falloir me donner ce qu'ils sont. Il va falloir trouver ce qu'ils sont. Bien évidemment, la vibration étant le
c'est un blind test de son, c'est ça ?
C'est un blind test de son, exactement. Avec pour thème commun la vibration. Et il va falloir trouver ce qu'ils sont. Donc on va commencer tout de suite.
Tu es tellement apaisant là.
Oh, ouais.
mais c'est super.
J'aimerais vraiment calmer un petit peu.
Je vais poser mon micro.
Il a vraiment posé son micro et voilà, il chill. On l'a perdu.
Mais
on reprend ton micro, sinon ça va être compliqué de gagner.
Pardon. Un test de rapidité du coup.
Alors c'est un test. En fait, j'aimerais que ce soit un test de rapidité tranquille. C'est-à-dire que
si tu essayes de gagner, vite,
mais si
perds.
Vous ne gagnez pas, ce n'est pas grave. C'est pas très grave. L'important, c'est vraiment de se détendre. Premier son. N'oubliez pas Arctic 24-42 contre Jésus Superstar.
Oui.
Premier son. Quelle est cette vibration ? Vous pouvez parler.
Ah, c'est une étoile.
Alors, c'est une étoile, tu t'en rapproches.
C'est la création d'une étoile ?
Non.
C'est la mort d'une étoile ?
Non, c'est pas la mort d'une étoile.
Et c'est le bruit de notre soleil, c'est le son que fait notre soleil.
Non, mais persistez sur cette voie.
Est-ce que ça a un rapport à notre soleil ou pas ?
Non, c'est
pas. C'est notre étoile.
C'est pas une étoile.
C'est le bruit de l'espace.
Non, c'est un son enregistré, je vous donne quelques indices, bien évidemment. C'est un son enregistré par la NASA. Effectivement.
Oui, ça, on s'en doutait un peu.
Bah, est-ce non, que c'est tout ça pour vous dire qu'est-ce qu'ils sont capables d'enregistrer.
Est-ce que c'est le son du rayonnement cosmique ?
Non.
C'est
fini. Alors, avec quelqu'un une idée ?
C'est le
son d'une planète.
Ah,
le premier.
C'est Vénus.
Ah, non.
Mars. Saturne.
Point.
Comment tu sais que c'est Saturne ?
Point.
T'as reconnu ?
Est-ce
que c'est une gamme pentatonique ?
Mais je m'endors avec les sons des planètes tous les soirs et c'est vrai que du coup ça me disait quelque chose.
Donc, je remets la musique de transition. Point pour Arctic. J'ai mis des petites musiques de transition 42. Parce que voilà, ça me calme. Point pour Arctic 42. C'était effectivement le son de Saturne enregistré par la NASA il y a quelques années. Bravo la NASA. Je tiens à souligner que vous êtes très forts.
Petite association
mais
de quartier.
Vous êtes quand même moins fort qu'Elon. Question, donc ça fait 1-0 pour Arctic 24-42. Vibration numéro 2. Attention, je baisse le son de transition et je lance la vibration numéro 2. C'est parti. Écoutez bien, pareil, vous pouvez.
C'est un animal dans Star Wars.
Écoutez bien, attention, ça va arriver maintenant. Non, là.
Voilà. Mobilette,
c'est un dinosaure. C'est le dinosaure.
Écoutez bien. Essayez de trouver des indices.
C'est une vidéo YouTube.
C'est un animal ?
Oui. Il y a des gens derrière si vous les entendez.
C'est un rhinocéros ?
Non. C'est un
alligator.
Ouais, c'est un alligator. Vous allez avoir un demi-point chacun. C'est la vibration ou est-ce que quelqu'un si quelqu'un sait ce que le son que fait un alligator, je lui accorde le point à lui.
Il Crocodile Dundee.
Non. Ah, bon, je pense que personne ne saura. Ouais, le nom technique, c'était un vagissement d'un alligator de Floride.
Le vagissement, c'est pas le nom.
Alors, si, c'est un vagissement, tout comme la poule caquette ou la belette belote, le perroquet jazz ou le cygne trompette, l'éléphant barry ou le grillon grésille. Sachez que l'alligator vagit.
Ça fait 1,5.
Ça fait 1,5 à 0,5.
Donc, tu l'avais préparé, ça.
Sachez également que le vagissement peut aussi fonctionner avec un lièvre. En fait, c'est un son propre à une espèce qui se caractérise dans le sens de l'alligator, enfin pour l'alligator en tout cas et pour le lièvre. Question numéro 3, enfin son vibration numéro 3. Attention, celle-là va être un petit peu plus rapide. Alors attention, je descends le son de transition.
On est moins relaxé déjà.
Et je lance le son.
Un téléphone.
C'est un iPhone 5.
C'est ça. Alors effectivement, c'est la vibration d'un téléphone. J'aimerais savoir le téléphone iPhone 5. Ce n'est pas
iPhone 7.
C'est un iPhone ça ?
Non.
Ça c'est un Samsung. Hein.
C'est un Samsung. Si tu me donnes
Galaxy
le truc, t'as deux points.
S1.
Non.
Galaxy S2. Galaxy Note.
Non.
Galaxy. Ah c'est celui avec le bord sur le côté.
Non.
Galaxy S3.
Le bord sur le côté, ça se tient.
Non.
Galaxy S4. Attendez là.
Focus sur les Galaxy.
Alors c'était un dommage. Vous êtes allé jusqu'au 4. C'est un Galaxy
S5
ah, merde. De 2014. Ah, et tout cela est du bluff, car ce n'était que marqué, ce n'était qu'une vidéo vibration phone, donc je ne sais absolument pas. Du coup, je pense que...
Ça, les lunaires, ça fait l'épisode, j'adore.
C'est l'équipe Jésus Superstar. Jésus Superstar, donc ça fait un point, ça fait 2,5 à 2,5.
Pourquoi 2,5 ?
Parce qu'il compte mal.
Voilà, non, pourquoi ? Parce que vous avez eu des demi-points. 2,5, c'est tout. Attention, vibration numéro 4, je descends le son de transition. Et attention, c'est parti.
Your butt is mine, gonna tell you right. You show your face in the birthday light. I'm telling you how I feel. Gonna hurt your mind. Don't shoot to kill. Come on, come on, lay it on me. All right, I'm giving you one on the count of three to show you stuff. Or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game. What about you? Well, I say the sky's the limit to me. That's really true. But my friend, you see nothing. Just wait till I get through because I'm bad, bad. Come on, come on. Bad, bad, really, really bad. You know I'm bad. I'm bad. You know
I'm bad. Bad, really, bad. You know I'm bad. I'm bad. Come on, you know bad, bad, really, really bad.
And the whole world is the answer just right. Just tell you once again who's bad.
Who's bad? Son de transition.
Je t'ai coupé la main sous le pied.
Ah non, j'ai dit bad en premier.
Non, t'as dit Billie Jean.
Non, et après j'ai dit who bad.
Alors,
on verra ça au montage.
C'est simple.
C'est moi, c'est moi qui le verrai. Voilà.
Je me suis noté de toute façon le montage. Parlons du montage.
C'est tellement.
Je me suis noté si Florian répond le prénom de l'homme. Tu dois donner le prénom de l'homme.
Ah non,
sinon, le point est accordé à Thomas. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Florian ?
Non, je ne l'ai pas.
Ok, tu l'as pas. Donc, le point est accordé à Thomas.
Mais pourquoi c'est
ça
pas juste
3 points et demi à 5 points et demi. Comme ça, tu sembles que c'est pas
3
juste.
3 points et demi à 5 points et demi.
Non,
c'est n'importe quoi.
Comme je vous l'ai dit, le résultat.
Ça fait 12 à 52.
Pourquoi ce n'est pas juste.
7, 4, 8.
Thomas, pourquoi.
Prochain 7.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette vidéo, sans faire exprès. Enfin. En fait, j'ai décidé de l'utiliser après. Mais je l'ai envoyé à Florian en disant t'as vu cette vidéo est rigolote. Non mais j'avais pas prévu d'utiliser pour le quiz.
Là derrière.
J'avais pas prévu d'utiliser pour le quiz.
En fait, pour
et finalement.
Full disclosure, en fait, Vic me l'a envoyé pour me redonner un petit peu de courage et que je puisse mettre du cœur à l'ouvrage parce que j'étais en train de faire mes sons.
Il a fini
très tard hier soir.
Du coup, j'ai décidé de l'utiliser. Donc, c'est les vibrations des cordes vocales de John Mochita Jr., The World's Fastest Talking Man, qui chante Bad de Michael Jackson. Attends, en 20 secondes.
Du coup, si j'avais juste dit John...
Oui,
ça passait.
Oui, exactement. Putain, mais tu as perdu, donc tu n'as que 2 points et demi, alors que l'équipe Jésus Superstar
en a 52.
Voilà, 52 points.
Et demi,
vibration, enfin, vibration numéro 5. Attention, c'est parti.
Ah, c'est dans les fonds marins, ça.
Non.
C'est Titanic.
Non.
C'est Titanic.
Non.
C'est le Titanic.
C'est vaisseau non. Dans le son de vaisseau dans Battlestar Galactica.
Non.
Le son de vaisseau dans Star Galactica.
Essayez d'analyser. Je vous donne une petite.
Ça
question.
Grince.
Ça grince, mais c'est un son ralenti. Je vous le relance. C'est un son ralenti.
C'est toi qui l'as ralenti.
Slow motion. C'est un son en slow motion.
C'est un Velociraptor.
Non, c'est un son de quelque chose qui existe vraiment en slow motion.
Est-ce que c'est une musique?
C'est un son qui pourrait donner lieu à de la musique éventuellement.
C'est de la basse.
C'est un instrument de musique.
La guitare. Les guitares en
Jésus,
ralenti.
Superstar, c'est la vibration en
la mineur.
Ralenti d'une corde de guitare acoustique.
Si tu es capable de donner la gamme,
si
tu gagnes 27 points.
Si tu es capable de donner la marque de la guitare,
Ibanez.
Je me suis vraiment noté Yamaha, mais c'était du bluff.
Ah,
ce point, donc Jésus Superstar, 3 points et demi contre 2 points et demi. Avant-dernière vibration pour vous.
Il y a beaucoup de vibrations.
Il y en a 7.
L'épisode le plus long de la Terre.
Donc, avant-dernière vibration, est-ce que vous êtes prêts?
Oui, on est chaud comme
je descends le son de transition et je lance la vibration.
It's such a great honor for us to have you tonight. You feel the magic in the air?
Yeah, Iman feel energy and the fans them and Iman give thanks to Iman.
Ah, c'est un rasta?
Alors,
Wagwan, il parle un peu avec l'accent jamaïcain.
C'est quelle vibration?
Évidemment, je lui demandais s'il avait ressenti la magie parce qu'on était évidemment enchantés de l'avoir ce soir avec nous. On l'a senti passer, la foule l'a senti
passer.
C'est
un rasta, effectivement.
C'est
juste les vibes qu'il faut ressentir.
Non,
c'est les vibes de
quelle vibration?
De Zion?
Quelle vibration?
Je remercie aussi le peuple.
Israël vibration.
C'est une interview d'Albert Craig alias Apple. Voilà, et de Skelly et de Wiz.
Je peux pas le croire.
Les chanteurs du groupe Israël Vibration. Lors du festival
groupe de reggae Florian.
Lors du festival
je n'ai pas
lors du festival Terre de Blues,
je trouve que ce cuit
organisé
n'est pas
par
du tout inclusif.
Canal Plus Caraïbes lors du passage du groupe à l'occasion du festival Terre de Blues.
Canal Plus Caraïbes.
J'adore ce quiz.
C'est n'importe quoi.
Et enfin, dernière vibration.
En plus, il invente des chaînes. Genre, il en regarde un air, genre, Canal Plus Caraïbes. Tu te fous de ma gueule, Nick.
Il invente des points, il invente des sons.
Alors, je veux bien inventer les points. Et pour moi, les points, vous savez, c'est pas vraiment important ce soir.
Ce qui compte, c'est le voyage.
Ce qui compte, c'est le voyage. Et sachez que Canal Plus Caraïbes existe vraiment, bande de fachos. Mais non. Facho.
Je suis pas sûr que les Caraïbes existent.
Canal Plus Caraïbes existe. Non, Canal Plus Caraïbes. Et c'était effectivement donc Canal Plus Caraïbes organisé Terre de Blues. Et voilà. Dernière vibration, et je pense que sur cette vibration, en même temps que la réponse, on ne donnera pas le résultat final du quiz, on ne donnera pas qui gagne, qui perd, car ce n'est pas important, mais on pourra conclure par de l'amour, par des réseaux sociaux et par tout ce qui s'ensuit. Je vous invite à écouter cette dernière vibration. Attention, c'est parti.
Ah, Good Vibration des Beach Boys.
Et je pense que c'est une bonne musique de conclusion.
Superbe. C'était un superbe quiz. Merci beaucoup.
Un quiz, je suis content d'avoir gagné ce quiz.
Jolie victoire.
Il est temps, je pense qu'il est temps de clore cet épisode.
Je m'entends.
Il est long, il était très bien, on a bien rigolé. Moi j'ai mal aux joues, j'ai mal aux zygomatiques.
Quelle belle vibration.
J'ai faim, moi, j'ai faim.
On a très faim, on n'a pas mangé de la journée, putain.
C'est pas le moment d'agacer les auditeurs avec tous nos petits problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on veut les dire? On peut leur dire
qu'on les aime. Merci de nous envoyer des messages, merci de nous envoyer des thèmes.
Merci à Actic2442.
Il cite à l'épisode, il a gagné.
On l'a cité des milliers de fois.
Il a gagné.
Merci vraiment de nous suivre, de nous envoyer des thèmes, de nous écouter. C'est vraiment formidable.
Il est temps, maintenant qu'on est un peu en train de s'ouvrir, est-ce qu'on peut dire que finalement, on pensait jamais avoir autant d'auditeurs? En vrai.
Non, on pensait en avoir 100. Allez, on s'est dit, genre, si on en a 100, on est gueudin, quoi. Genre,
on a multiplié par un certain chiffre beaucoup plus important. Oui, on est vraiment content.
On a ce chiffre parce que généralement, quand on essaie de contacter des partenaires ou des fournisseurs ou des éditeurs, etc., on cite à chaque fois
plusieurs dizaines de millions.
On dit ça.
Et ça vous donne déjà une échelle.
C'est vrai, ça nous a permis de.
Des
utopiales cette année.
Exactement. Il y a plein d'autres très bonnes choses. C'est grâce à vous.
C'est formidable.
C'est pour ça qu'il continue.
Merci de nous écouter.
Merci continue beaucoup. De nous envoyer des
merci
thèmes.
À la génération X. Merci à la génération Z.
Merci à la génération Y.
La génération
Alpha, Beta, Epsilon, tout ce que tu veux, quoi.
Merci à la génération W.
Les générations.
Mais c'est celle avant X,
je sais pas.
Ouais, peut-être. C'est les baby boomers peut-être avant.
Oui, c'est vrai.
Bon, en tout cas, merci.
Les gens savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent liker, ils doivent partager, etc., etc. Moi, ce que j'aimerais faire, étant donné que nous sommes dans un épisode un petit peu paradoxe temporel, et si on définissait tout de suite maintenant un mot ou une phrase ou une musique ou quelque chose que l'on diffusera dans l'épisode précédent que l'on va enregistrer plus tard.
Un peu comme quand tu cales, genre ornithorynque dans ton discours exactement. De remise de diplôme.
Exactement. Comme ça, par... oui, tout le monde fait ça.
C'est un truc qui arrive à tout le monde, c'est vraiment un vrai insight.
Oui, bien sûr. Non, mais par exemple, effectivement, le mot ornithorynque, prenons cet exemple-là. Ouais. Imaginons que l'on doive caler le mot ornithorynque sur l'épisode 26 que l'on va enregistrer, donc... plus tard que l'épisode 27, jusqu'à la tournée.
Acceptez, qu'est-ce qu'on se donne?
Les gens vont écouter l'épisode 26 et entendre ornithorynque et se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ornithorynque? Et après, à l'épisode 27, quand ils découvrent
c'est génial, ornithorynque, ils vont comprendre pourquoi.
C'est génial ce qu'il fait.
Et message à notre nous du passé quand on enregistrera l'épisode 26, il faut pas qu'on dise, au moment où on dit ornithorynque, il faut pas qu'on dise ah c'est bon, tu l'as dit, machin.
Non, non, bien sûr que
il faut vraiment, voilà.
Exactement.
Ah, c'est génial. Ok, on dit quoi? C'est quoi le mot?
Ornithorynque.
Ornithorynque.
Allez, c'est un de mes animaux préférés.
Merci le Thomas.
on va finir un épisode d'une heure et demie ou pas?
On va éviter. Allez, merci à tous.
Merci bisous, beaucoup. Bisous. On a été un peu long, mais on vous aime. On se retrouve dans 3 semaines. Et de toute façon, on s'appelle.